Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, attendre son retour.
Que je n'aurais pas vu. Salué. Alors, nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc. Je vous propose donc ce récit à lire dans le chapitre 12 de Luc, au verset 35, et puis nous commenterons ce passage avec un autre texte que nous allons découvrir d'ici quelques instants. Voilà. Alors, on commence par Luc, chapitre 12, verset 35. Il est question du sens même de notre espérance chrétienne. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, ça c'est déjà la première partie de notre méditation. C'est Jésus qui dit cela. Et il enseignait naturellement ses disciples, qui étaient vraisemblablement tout autour de lui, et qui recevaient en effet tout un ensemble d'enseignements, de prophéties également, on peut le souligner. Et il leur dira en substance, vous, mes disciples, vous qui me suivez, et puis tous ceux qui viendront après moi, et ça nous concerne aujourd'hui, on est disciples de Jésus et nous avons la même attente, la même espérance au fond de notre cœur. Alors, il leur tout simplement rappelle ce principe et il leur dit ceci, mais que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Parce que cela anticipe et laisse deviner que quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui va avoir un effort à faire, quelqu'un qui doit se mettre à l'ouvrage, avoir les reins sains, c'est déjà être dans les dispositions, précisément, de faire, d'agir, et de pouvoir être dans, tout simplement, comme je le disais il y a un instant, dans ces dispositions, pour répondre à ce qui nous est promis. Alors, c'est vrai que lorsque nous avons un travail à faire ou un travail de force ou quelque chose dans ce sens, nous nous préparons. Si nous avons un travail à faire dans l'eau, nous allons mettre des bottes. Excusez-moi l'expression, c'est peut-être un peu simpliste, mais c'est comme ça. Si nous avons des charges à porter, nous allons mettre une ceinture de soutien et ceci et cela. Donc, ce sont des préparations, ce sont des choses qui sont nécessaires parce que celui qui est pris sur le vif soudainement, dans la surprise, peut être complètement paniqué et ne pas répondre et passer à côté, finalement, de ce qui va arriver. Et puis, quant aux lampes, elles soient allumées. Peut-être Jésus nous laisse entendre que dans les derniers temps, au moment où il va revenir, le crépuscule s'appesantira sur la terre, la nuit sera là, et heureux celui qui disposera d'une lampe, et comme il nous le dit également dans un autre endroit dans Matthieu, au moins avec une lampe, d'avoir de l'huile dedans, parce que si vous avez la lampe sans l'huile, ça ne sert à rien. Et tout cela, ce sont des images, et c'était tout à fait compréhensible par les auditeurs de son temps. Alors c'est la même chose, et il ajoutera ceci, « Soyez semblables à des hommes qui attendent ». Voilà. Alors je ne sais pas si nous sommes des hommes ou des femmes qui attendons quelque chose, je pense. Hein? Alors il y a des espérances qui sont tout à fait... qui concernent notre vie d'homme. Hein? Il y a des choses, on se dit, ben voilà, j'attends ceci, j'attends cela. Et puis bon, c'est des choses qui sont indifférentes, hein, tout simplement, de la vie. Mais il y a des choses qui sont plus importantes. Et les choses importantes, eh bien, nous sont révélées et rappelées dans la parole de Dieu. Et voilà qu'il nous dit, soyez comme des hommes qui attendent. Et quelqu'un qui attend, je ne sais pas si vous avez regardé... Vous avez observé des gens qui attendent. Des gens qui attendent l'avion. Enfin, on ne peut pas remonter dedans avant qu'il soit ouvert. Hein. Ça, c'est sûr, et qu'il soit déjà arrivé. Hein, qu'il soit en disposition, hein, dans le terminal. Et puis, ben, quelqu'un qui attend un train. Alors, on y fait attention, on n'est pas là. Hein, on se met juste et on regarde, on scrute à l'horizon pour voir si on voit le train arriver. Et on peut attendre beaucoup de choses. Donc, on a une attitude tout à fait particulière qui est la caractéristique de l'attente. Alors, plus ce que nous attendons est important, plus nous sommes naturellement, eh bien, on pourrait dire, attentifs, vigilants, et on observe les choses. Alors il dit, mais soyez semblables à des hommes qui attendent. Et puis alors, naturellement, c'est mis dans une parabole, le maître qui revient des noces, afin de lui ouvrir, et lorsqu'il va arriver, il frappera, eh bien, vous allez lui ouvrir, tout simplement. Et puis la fin de ce petit paragraphe, il est dit, vous aussi, tenez-vous prêts. Alors, je pense que nous sommes tous les jours exhortés à être prêts, hein. Hein, lorsque nous prions, lorsque nous nous réunissons semblablement dans une réunion, nous entendons un message, ou quelle que soit la nature de ce message, d'une façon ou d'une autre, l'évangélisation, l'édification, peu importe. Alors, on se tient prêt, parce qu'il nous est dit, mais le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et c'est ça, bien sûr, ce que nous attendons. Le retour du Fils de l'homme, le retour de Jésus-Christ, celui qui nous est annoncé plus de 360 fois, dans le Nouveau Testament, et qui nous dit « Je viens, attendez, hein, je viens bientôt ». La traduction nous précise « Je viens vite ». Alors quand on sait que quelqu'un arrive vite, on se prépare. Moi, quand j'ai rendez-vous et que j'attends quelqu'un qui m'a donné naturellement, eh bien là, un lieu, un endroit précis, j'essaie d'être à l'heure. Enfin, autant que ça dépend de moi, et je prends un peu d'avance. Hein, j'aime pas faire attendre, et j'aime pas attendre non plus. C'est une question de... C'est la politesse, hein, je crois. Hein. Alors c'est vrai qu'on fait attention à cela, et je pense que nous devrions avoir peut-être aussi cette notion, entre guillemets, de politesse, parce que le Seigneur revient vite, il revient bientôt, et nous voulons être donc dans les dispositions. Imaginez-vous, c'est très désagréable, quand quelqu'un vous a dit « je viens de chercher au train » et que vous ne voyez personne. Alors vous avez 2 ou 3 valises, vous ne savez pas comment faire. Hein, et c'est vrai que c'est très désagréable. Quelqu'un vous donne rendez-vous, et puis, vous l'attendez, et puis il n'arrive pas. Alors après, bien sûr, il va se confondre en excuses. Je ne crois pas que le Seigneur arrivera en retard. Hein. Il n'arrivera pas en avance, parce que vous connaissez, hein, on ne peut pas dire, hein, quand il va arriver. Mais en tous les cas, il nous a dit « Je suis là. Je serai au moment précis. » Alors, en raison de cela, moi, j'aimerais vous parler un peu de l'état du monde au moment où Jésus va venir. Un peu les réflexions qui ont lieu, parce qu'on peut dire qu'on est déjà vraiment bien avancé à l'horloge de Dieu, et puis les réactions, les comportements, peut-être les idées un petit peu bizarroïdes, hein, que les gens ont, la manière dont ils s'imaginent comment le Seigneur reviendra. Alors on va prendre maintenant dans 2 Pierre, chapitre 3, et on va faire le commentaire au fur et à mesure, hein, tout simplement, de ce que cet homme qui... est un homme de Dieu, Pierre, hein, c'est un disciple de la première heure, un disciple qui, quelque part, avait certainement beaucoup à écrire, parce qu'il a été le témoin oculaire, il a suivi Jésus pas à pas. Alors, il va nous dire des choses, et il l'écrit pour les hommes de notre temps, hein, pour nous qui sommes, eh bien là, dans ce siècle que nous connaissons, que nous vivons, que nous partageons. Et il va dire ceci. Alors il rappelle, il dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Voilà, la première chose qu'il dit, c'est que ce sont des choses que l'on sait. Quand il écrit à ces hommes, ce sont des choses que ces chrétiens savent déjà. Et il y a longtemps, hein, parce que quand il a écrit son épître, il y avait déjà quelques décennies qui s'étaient passées. Mais la foi des chrétiens était entretenue dans ce Jésus qu'ils avaient vu monter au ciel. Donc, mort, ressuscité, monter au ciel, c'est l'ascension naturellement, hein, le vrai sens de l'ascension. Et Jésus leur avait dit, mais je reviendrai de la même manière. Enfin, vous me verrez revenir de la même manière que vous m'avez vu aller au ciel. » Alors à ce moment-là, il dira, mais dans cette lettre, pour la deuxième fois, je cherche à éveiller. Parce que vous savez que quand le temps d'attente est long, on a tendance à s'endormir. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Et vous savez que ça fait plus de 2000 ans que le Seigneur nous a dit qu'il revenait vite, et pour l'instant, on l'attend encore. Hein. Mais il y a quelque chose qui va permettre cette attente et qui va permettre cette stimulation à regarder toujours avec la même ferveur en disant « Mais Seigneur, tu as fait une promesse, nous t'attendons. » Alors il y a, c'est vrai, beaucoup de générations qui ont eu la même réflexion que nous, qui ont eu la même réaction et qui sont morts sans avoir vu le retour de Jésus. Mais aujourd'hui, ils le voient. Hein. Nous, on ne le voit pas encore. Ils le voient dans la gloire. Mais toujours est-il qu'il y a quand même cet événement qui est marqué. Alors il dira, mais je vous rappelle ces choses par des avertissements, parce que votre intelligence est une intelligence saine et elle est sainte aussi. Vous savez, on ne peut pas, et j'aime bien cette expression, on ne peut pas avoir été confronté avec la révélation de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui nous a éclairés sur cette révélation, cette parole, ces prophéties, sans que véritablement notre intelligence ait été sanctifiée et assainie. Assainie de toute force doctrine, toutes sortes d'illusions, de toutes sortes de légendes, toutes sortes de choses. Un chrétien, c'est un homme dont l'intelligence a été assainie, sanctifiée. Et les choses, nous les comprenons par l'esprit. C'est pas religieux, ça n'a rien à voir avec la religion, mais on comprend les choses. Et Pierre le dit, votre intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Vous savez, dans la vie, on ne se souvient pas de tout. On se souvient des bons, des mauvais moments, hélas. Mais il y a bien des choses qui ont complètement disparu. Et quelquefois, quand on se retrouve avec un événement similaire, on se dit « Ah oui, c'est vrai que c'était comme ça. C'est vrai que j'ai vécu cela. C'est vrai que j'ai rencontré telle ou telle personne. J'avais oublié. » Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu, parce qu'il est invisible, mais il est bien présent. C'est Jésus. Et puis, il nous a dit qu'il allait revenir. C'est donc d'autant plus difficile parce que lorsque nous avons eu un lien, on pourrait dire presque quasiment physique, on a partagé, on se souvient de la personne, de la manière dont elle parle, de son visage, de ses attitudes, on a partagé des bons moments, on a été unis, on a vécu quelque peu certainement des choses avec cette personne. Donc on s'en souvient, mais parfois on peut l'oublier avec le temps. Mais c'est encore peut-être plus difficile de nous souvenir de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mais par contre, de quelqu'un dont on a entendu parler et qui nous a laissé sa parole. Et vous savez, c'est pour ça que le grand défi que nous avons à relever, c'est de nous entretenir dans la parole de Dieu pour entendre continuellement et en permanence la voix de Jésus, autrement on risque de l'oublier. C'est un risque de nous enrichir, de nous nourrir, de nous faire et refaire en permanence avec cette parole. Alors, il parle des choses annoncées d'avance, d'abord par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, qui a été enseigné par les apôtres, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'Ancien Testament, les saints prophètes, l'Ancien Testament, et puis et Jésus au cœur de tout cela, et puis également le même relais a été pris, le même message, la même parole d'avertissement, de mise en garde, attendez, ne vous endormez pas, également par les apôtres, c'est-à-dire le Nouveau Testament tout simplement. Et voilà que Pierre va dire, dans la chronologie des événements maintenant qui vont présider le retour de Jésus et à la fois l'attente pathétique et l'attente fervente et vibrante des chrétiens, et puis d'un autre côté, il va y avoir aussi le monde qui, lui, eh bien, va s'avachir. Excusez-moi l'expression, c'est pas beau, hein, j'aime pas ça. Mais toujours est-il qu'il va tout simplement, eh bien là, s'affaler dans toutes sortes d'illusions, toutes sortes de choses, s'il a encore une illusion, parce que quelquefois, les gens sont complètement perdus, et ça ne les intéresse même pas. C'est le drame de notre société d'aujourd'hui. « Sachez avant tout, dira-t-il, que dans les derniers jours, et là c'est la surprise, il viendra des moqueurs. » Alors voilà. Alors qu'est-ce que l'on entend par moqueur? Moi je dirais qu'en premier lieu, les moqueurs ce sont d'abord les incrédules. D'ailleurs, un incrédule est souvent un moqueur. Vous croyez en Dieu? Vous croyez dans ce livre qui est la Bible? Vous croyez à des paroles comme cela? Vous croyez que ce Dieu qui vous a dit qu'il revenait, il va revenir? Dites donc, regardez le temps qui est passé, on en reparlera d'ici quelques instants. Alors ça, ce sont des moqueurs. Et les moqueurs, eh bien là, ça, c'est toute une catégorie. Et dans les moqueurs, il peut y avoir aussi toutes sortes de gens collés-montés, avec peut-être même une croyance. Vous savez, Jésus, de son temps a eu affaire à des moqueurs. Permettez-moi de le rappeler, mais ce n'est pas les prostituées, ce n'est pas les publicains, ce n'est pas les gens qui avaient une vie quelque peu bancale qui se moquaient de Jésus, au contraire. Ceux-là, ils ont pris les paroles de Jésus au sérieux. Et ils venaient, quand ils venaient vers Jésus, vous savez ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils s'agenouillaient devant Jésus. Mais quant aux pharisiens, il y avait toujours un pic, il y avait toujours une flèche, quelque chose où on sentait, où on perçoit derrière, eh bien là, de l'ironie. Ouais. De l'ironie, vous savez, quand on voit Jésus à la croix, et qu'on fait dire, on fait pousser la foule un petit peu en disant, mais les magistrats et tout cela, eh bien si tu es le fils de Dieu, descends de ta croix. Vous savez que le diable, c'est un moqueur. Le diable est le roi des moqueurs, et il entraîne les hommes à se moquer. Et il se moque de quoi? Il se moque de la vérité, il se moque de la lumière, il se moque du salut. C'est ça, la question. Et il viendra des moqueurs. Et je crois qu'il n'y a jamais eu autant de moqueurs, il y en a toujours eu. Hein. Du temps de Jésus, il y en avait. Dans les siècles passés, il y a eu certainement, eh bien là, une infinité de moqueurs. Mais dans notre temps, il y a des moqueurs, parce que on se sert, pour appuyer de la moquerie, on se sert de la science. On se sert de l'intelligence des hommes. On se sert de leur connaissance, prétendue connaissance. Je ne veux pas mettre en doute que les gens ont de la connaissance. Mais on détourne les choses et on les appuie et on fait en sorte qu'on devient persuasif en disant « Mais c'est primaire votre affaire, j'entendais ça dernièrement. » Par rapport à l'évolution, par rapport à tout simplement la société et toutes sortes de choses. Et la part du christianisme. Et il y avait des gens qui lançaient ce genre de boutade en disant « Oui, mais aujourd'hui, franchement, en 21e siècle, croire en Jésus-Christ, c'était bien pour les siècles d'obscurantisme et d'ignorance. Mais croire aujourd'hui, vous savez, vous êtes un petit peu quand même un petit peu en arrière. Hein, » voilà, c'est ça. Hein. Et ils le font avec, je dirais, quand même de la perfidie. Parce qu'ils sont sûrs de leur fait. Ça sera de l'autre côté qu'il va y avoir des surprises. Hein. Parce que premièrement, il touche et froisse la conscience des gens, premièrement. Et avec les arguments qu'il trouve, naturellement. Et par A plus B, alors on pourrait peut-être retourner la chose en disant, mais vous pensez que nous sommes des primaires, hein, ou voire même des primates, ça leur ferait plaisir. Mais une chose qui est certaine, c'est que, croyez bien que nous, on a préféré chercher nos premiers parents dans le jardin d'Éden que de le chercher dans le jardin géologique. Vous allez voir, ça ne va pas leur faire plaisir. Ça, c'est sûr. Et je crois que tout cela, ce sont des choses, quelque part, en effet, qui fait que notre monde est un monde, où Pierre le dit, mais un monde, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, bah, bien sûr, pour la bonne raison que ça leur permet moralement, finalement, de faire ce qu'ils veulent avec ça. Puisqu'il n'y a pas de Dieu, puisqu'il n'y a pas de retour de Jésus-Christ, puisque la sainteté n'existe pas. Alors à ce moment-là, c'est une belle autorisation gratuite pour dire, eh bien finalement, puisque on est des hommes, on est sur la terre, il n'y a rien d'autre. Alors, ben, vous connaissez la maxime, hein, mangeons et buvons parce que demain, eh bien nous allons mourir. Et puis de toute façon, il n'y a rien d'autre après. Alors, on peut se permettre tout cela. Et voilà ce genre de raillerie qui est relevée par Pierre. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Eh oui, on sait que Jésus est venu. On sait également qu'il va revenir, puisqu'il nous l'a dit. Mais, vous savez, c'était le même cas de figure avant la venue de Jésus pour les Juifs. Les Juifs pouvaient dire, mais où est la venue du Messie, de l'avènement du Messie? Quand le Messie est venu, ils n'ont rien vu du tout. Enfin, ils ont vu. Ils ont eu la preuve. Mais comme leur cœur était pétri d'incrédulité, donc de moquerie, eh bien voilà ce qu'ils en ont fait du Messie. Et aujourd'hui, on pourrait dire la même chose, que ce soit les Juifs hier, que ce soit les chrétiens ou ceux qui se disent chrétiens ou d'une certaine croyance chrétienne, ils disent ceci, mais où est la promesse de son avènement? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et ce qui fait que, quelque part, eh bien pour ces gens-là, la Bible est complètement obsolète. Ça tombe, toutes ces promesses, c'est quelque chose qui est nul et non avenu, puisque... Oui, parce que l'homme est pressé. Oui. C'est comme si c'était lui Dieu. Alors il dit, voilà, hein, moi maintenant je veux voir, parce que c'est toujours la même chose. Le raisonnement de l'homme, je crois, mais si je vois. Ben, ils vont voir, mais il sera peut-être trop tard, parce qu'ils ne seront peut-être pas du bon côté pour voir les choses. Et ça, c'est le drame. Et avec cette argumentation, en étayant finalement cette question, promesse de son avènement avec un grand point d'interrogation, parce qu'ils trouveront l'argument, ils diront « mais car ?» Parce que depuis que les pères sont morts, faisant référence à tous ceux qui nous ont précédés, eh bien tout demeure dès le commencement de la création. Eh oui, c'est vrai. Mais depuis le commencement de la création, il y en a eu des choses qui se sont passées, et des choses qu'ils ont zappées, qu'ils ont complètement voulu, volontairement ignorer. Parce que, regardez, ils veulent ignorer. C'est pas qu'ils ignorent. C'est pas que, quelque part, ils sont mis en dehors. Mais ils veulent ignorer. Il y a un vouloir déterminé de dire « je ne veux pas savoir ». Et ça, c'est terrible. Dernièrement, je voyais ça. Et il y a quelqu'un qui parlait. Il y a même un groupe qui parlait. Et on voyait d'une manière délibérée de dire « ben oui, peut-être que c'est votre foi à vous, mais moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas ». Vous savez, vous l'avez déjà certainement vu dans votre vie, où vous avez les gens qui sont en train de freiner des deux pieds, hein, et puis des deux mains, en disant mais ça c'est votre affaire, moi, pas du tout ». Et là, nous sommes dans une société comme ça. Hein. C'est terrible. Ils ont cette détermination, même s'ils ont la possibilité de savoir, ils ne veulent pas. Écoutez, on ne va pas dire que quand même dans notre pays, dans nos pays, et même jusqu'aux extrémités de la terre, mais particulièrement dans nos pays occidentaux, tout le monde peut se procurer une Bible. Tout le monde peut quand même se renseigner, même s'il veut le faire sur Internet. Ils tapent Jésus-Christ sur Internet, ils vont avoir des pages et des pages et des pages de la vie de Jésus. Hein. Puis en conformité, je veux dire, parce que bon, il y a l'histoire, et puis il y a aussi, voilà. S'ils veulent connaître tous les miracles de Jésus, ils tapent « miracles de Jésus », ils vont avoir tout ça. S'ils veulent avoir des textes de la Bible, ils vont avoir les textes de la Bible. Tout est à la disposition des hommes. Rien n'est oublié. Ils veulent avoir des renseignements sur la crucifixion de Jésus, pourquoi Jésus est mort, ils vont les avoir. Mais ils veulent ignorer pour la bonne raison que nous l'avons dit tout à l'heure, c'est parce que, selon leur convoitise, ça les dérange, ça les met dans une situation de mal-être et de malaise de connaître la vérité. La vérité, ça dérange. Pour celui qui ne l'aime pas. La justice de Dieu dérange pour celui qui aime bien batifoler dans l'iniquité et puis dans toutes sortes de choses semblables. Alors, ils veulent ignorer que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, donc le souffle qui a donné l'existence, qui a amené les choses, eh bien l'existence, la création, ainsi qu'une terre tirée de l'eau formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. On se souvient de l'histoire de Noé. Personne ne voulait croire, et tout le monde se moquait. Qu'est-ce que c'est que le père Noé qui est en train de construire une arche dans le désert? On n'avait jamais vu l'eau par là. C'est comme si à Saint-Nazaire, chantier naval, on faisait ça à sec. Hein. Alors, remarquez, on pourrait toujours le faire. Mais en principe, les constructions, les ports où il y a des constructions industrielles, navales, eh ben, ils sont quand même près de l'eau, hein, ça c'est normal. Ça c'est tout à fait logique. Et il se disait, mais il est tombé sur la tête, Noé. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Et Noé disait, et il l'a dit pendant des années, pendant des décennies, préparez-vous, parce qu'il va y avoir quelque chose qui arrive. Attention, regardez plutôt vers le haut. Méfiez-vous de tout cela et ceci et cela. Et les gens, ils se moquaient. Il était prédicateur de la justice, hein, Noé. Et il ne cessait, en construisant son arche, eh bien, finalement, de dire « Levez vos têtes, prenez garde, ce sont des avertissements de Dieu. » Et il continuait à clouer. Et puis pendant ce temps-là, le temps passait. Et les autres, plus ils voyaient construire, plus ils se moquaient. C'est curieux, hein ? Incrédulité. Et que par ces choses, le monde d'alors a été submergé par l'eau, on sait comment ça s'est terminé, mais par la même parole. C'est toujours la même chose, le même principe. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Parce qu'attention, là c'est bien marqué, et c'est marqué à de nombreux endroits, c'est que le Seigneur créateur du ciel et de la terre, des hommes, de tout ce que nous sommes, de toute notre vie, il est créateur, mais il est aussi rédempteur. Et mais en dernier instant, il sera juge. Il sera juge. Et à ce moment-là, c'est là où il faut prendre position, de savoir où nous en sommes. Mais justement, l'incrédulité et le refus, ce vouloir ignorer, c'est d'ignorer justement jusqu'au jugement. Parce que ça, c'est quelque chose qui effraie les hommes. À l'intérieur de nous-mêmes, la Bible nous dit, le livre d'Ecclésiaste, il nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. On n'a pas besoin d'être un grand théologien avec pour avoir fait la faculté et ceci et cela. hein, et d'avoir une connaissance, mais au fond de, nos, de nous-mêmes, dans notre conscience. C'est signé aussi par l'apôtre Paul qu'il dit que les hommes seront jugés s'ils n'ont pas la connaissance révélée, la connaissance écrite, ils seront jugés en raison du bien ou du mal qu'ils auront fait. Voilà, mais ça, ça nous dépasse parce que on se dit, mais comment Dieu va faire? Mais Dieu est Dieu. C'est bien la différence avec nous, parce que nous, on est très limités. Alors, on laisse ça au Seigneur, mais il nous est dit que tout cela est gardé, réservé par le feu, parce que le feu, eh bien, ce sera la marque du jugement. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, c'est un livre d'espérance extraordinaire, un livre d'espérance pour nous. Mais c'est un livre où il nous parle que ceux qui seront, finalement, qui auront voulu ignorer ces choses, même avec des faits patents, même avec des faits éclatants, des révélations marquées, frappées par Dieu, où les hommes devraient normalement dire, eh bien, attention, il y a peut-être quelque chose, comme on le voit autour de nous aujourd'hui, attendez, on n'est pas sorti, mais quand on voit l'accumulation de séismes, de tremblements de terre, de convulsions de notre planète, et tout le reste, les maladies qui arrivent, et toutes sortes de choses, hein, on peut même plus manger de concombre, vous vous rendez compte, c'est une catastrophe. Hein. Ben oui, non mais c'est vrai, c'est terrible. Alors ça, ce sont peut-être des choses qui passent sur la terre, mais il y aura peut-être quelque chose de beaucoup plus grave. Ça risque d'arriver. Et les hommes se disent, ben oui, mais bon, on va trouver. On trouvera toujours des raisons pour dire, ah ben non, c'est surtout pas Dieu, c'est... Bon, maintenant, chacun voit comme il pense. Mais quand même, la parole de Dieu nous dit, relevez les têtes, relevez la tête. Le maître arrive, il se prépare à la porte. Alors, si vous êtes à la porte pour l'attendre, quand il frappera, ouvrez-lui. Et il s'agit du cœur, naturellement. Mais il est une chose bien aimée. Et c'est là justement ce qui fait toute la différence. Et ce qui déconcerte les impatients, ce qui déconcerte ceux qui veulent ignorer, parce qu'ils ne sont pas au bout du compte, hein. Alors c'est que vous ne devez pas, vous, maintenant, ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. L'an 1000, il est loin pour nous, vous en souvenez, non? On a de vagues souvenirs. Hein. Alors pour ça, il faut ouvrir un livre d'histoire. Hey. C'était même encore avant le Moyen-Âge. Hein. Vous savez, les rois qui régnaient en France en l'an 1000 ? Childebert, Clotaire, et ils avaient des noms extraordinaires. Hein. Voilà, c'était même encore avant ça d'ailleurs, ceux que je cite. Donc, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Hein. Mais ça, c'est la vue de Dieu, c'est la conception de Dieu. Mais la nôtre, hein, 1 an, c'est déjà pas mal. Hein. Quand on devient vieux, 1 an, c'est très court. Mais quand on est jeune, c'est 1000 ans. Alors le Seigneur ne tarde pas, et c'est ça la belle parole qui est donnée, c'est qu'il ne tarde pas. Le Seigneur se presse lentement, mais il vient sûrement. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est lui qui est la promesse parce qu'il est la parole. Et sa parole qui est donnée ne manquera pas de se réaliser. C'est dit, ça sera fait. Donc, l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, c'est ce que nous retrouvons, nos moqueurs. Nous retrouvons les détracteurs d'un peu plus haut, ceux qui veulent ignorer, les incrédules de tout acabit. Alors, comme quelques-uns le croient, et c'est curieux parce que ils ne croient pas, ils croient quand même. Vous avez remarqué la subtilité du texte? Ils croient que ça n'arrivera pas, alors qu'ils devraient croire que ça va arriver, mais là, ils ne croient pas que ça va arriver. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien comprendre, c'est difficile, hein. Faut suivre. Hein. Ce sont les méandres de la, quelquefois, de la subtilité de la pensée des hommes, comme quelques-uns le croient. Alors qu'ils devraient croire à la vérité, ils ne la croient pas. Et quand il va, quand le fait va arriver, là, ils vont être obligés de croire. Que finalement, eh bien, ils n'ont pas cru, tout simplement. Comme quelques-uns, donc. Mais voilà, la miséricorde de Dieu, c'est pourquoi le temps passe. Que le temps, eh bien, là, s'écoule. Pour nous, c'est tout un mystère ce temps, mais il nous est dit que Dieu use de patience. Vous savez ce que c'est que cette patience? C'est quand vous êtes continuellement aiguillonné, quand vous êtes là, eh bien, poussé dans vos retranchements, et que vous regardez continuellement votre montre en disant « il arrive ou il n'arrive pas hein ?» et que ça commence déjà à vous embarrasser, et plus encore, parce que vous savez, l'impatience, ça peut aller très loin, hein. Ça va à l'irritation, ça va à la colère, ça va à l'explosion. Hein. Quand quelqu'un arrive en retard et que vous l'avez attendu dans des mauvaises conditions, vous lui faites un bon accueil. Hein. Dis donc, ça fait 3 jours que je t'attends. Hein. Voilà. Enfin, bon, c'est beaucoup 3 jours. Hein. Mais c'est quelque chose. Alors, il use de patience envers nous, envers vous, envers tous ceux qui plongent les regards dans cette parole que nous avons ouverte il y a un instant. Donc, Dieu est patient. Il est magnanime, notre Dieu. Il est patient. Je dirais qu'il est tolérant aussi. Parce que s'il n'était pas tolérant, il y aurait longtemps que nous serions peut-être à côté. Hein. Eh oui, il se dit, mais quand est-ce qu'il va répondre? Et pendant ce temps-là, Dieu déploie toutes ses ressources de son amour et de sa bonté pour nous dire, mais écoute, regarde, tu vois dans cette situation, j'étais encore là, tu ne m'as pas vu. Regarde dans cet incident ou accident, eh bien, il y avait encore ma main qui te protégeait. Regarde, tu vois, tu as tout cela à ta disposition. Je t'ai béni, je t'ai donné ceci et cela. Est-ce que tu t'es rendu compte que cette bénédiction, ce n'est pas le produit du hasard, c'est encore moins juste de patience? Et quelquefois, j'ai même vu, et ça, j'espère que ça ne va pas vous choquer, mais j'ai même vu parfois des chrétiens qui partaient un petit peu de droite et de gauche, et à notre étonnement peut-être, mais ça c'est un questionnement que l'on peut se faire, en disant, bien voilà, de savoir encore que Dieu continue à les bénir. Eh oui, heureusement que Dieu continue à nous bénir, parce qu'imaginez-vous, dès qu'on fait quelque chose d'un pas de travers, on mourrait, boum, il n'y aurait plus grand monde sur la Terre. Hein. Ça serait pire que la bombe atomique. Hein. Non mais c'est terrible. Hein. Donc il use de patience. Et dans cette patience, comme le Père avec le Fils prodigue, eh bien Dieu, moi je le crois, et on l'a vu, continue à leur dire, mais je suis encore avec toi. C'est pas pour les conforter dans leur péché, attention. Hein. C'est pas pour leur dire, mon petit bonhomme, c'est bien ce que tu fais, tu marches sur la tête, tu fais ceci et cela, tu trompes les autres, etc. etc. C'est pas pour te dire. Non, quelquefois nous l'interprétons comme ça, mais quelquefois en disant... Et après, on a vu des gens venir en disant, mais moi je me suis aperçu que même dans ma folie, dans mes égarements, dans ma sottise, je me suis aperçu à un moment donné que Dieu continue à me bénir. Mais non pas pour m'encourager dans le mal, mais pour me dire, eh bien, mon fils, tu reviens vers moi. Ouais, tu reviens vers moi. Ce qui s'était passé quand même avec cette belle parabole que l'on appelle la perle des paraboles. Hein. Alors Jésus, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Parce que le but de Dieu, après son acte majeur de création, c'est avant tout cette œuvre essentielle de rédemption. Et il ne veut pas que nous périssions. Ça nous rappelle Jean 3,16, ça. Hein, eh oui, Jean 3,16. Mais voulant que tous arrivent à la repentance, le but ultime de Dieu, c'est qu'il est patient, lui, et nous devons, nous aussi, eh bien, être patients pour l'attendre. Mais quoi qu'il en soit, il veut que tous, et ça c'est une parole formidable, qui nous montre que ce n'est pas seulement ce que nous connaissons dans notre petit environnement, notre petite connaissance, mais moi je crois que quand il est dit ceci, c'est que tous, moi je crois que c'est le monde entier que Dieu veut sauver. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et je précise que les appelés, ils sont appelés. Mais les élus, c'est faut se présenter pour être élu. Hein. Bientôt, on va avoir des élections. Celui qui ne se présentera pas, il ne sera pas élu. Aucun risque d'être élu puisqu'il ne s'est pas présenté. Et quand Dieu nous appelle, c'est pour que nous présentions. Et une fois que nous sommes présentés, alors après, eh bien, il y a l'élection. En tous les cas, nous sommes déjà élus. Si nous engageons notre cœur et notre vie, que nous disons affirmativement que nous voulons Dieu, nous serons élus. Il n'y a pas de problème. Alors, voulant que tous arrivent à la repentance, parce que le but, c'est que les hommes arrivent à la repentance. Il est bien question du péché qui va nous entraîner au jugement. Et ce jugement sera éteint, sera annulé s'il y a repentance. Avec, naturellement, on l'a bien compris, avec des fruits dignes de la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est la première proposition que nous avons lue tout à l'heure. Vous savez, les voleurs, hein, quand ils viennent, ils ne vous téléphonent pas avant, peut-être. Pour savoir si vous êtes là. Mais ils sont subtils. Hein. Aujourd'hui, il y a des vols qui se font, mais alors d'une manière... j'ai de l'intelligence. Je dis, mais ils ont de la suite dans les idées. Hein. Des choses qu'on n'a pas pensées. Hein. On est dépassés, nous, hein, par les événements. On se dit, mais comment ils ont... Il y a des choses... J'ai entendu des histoires de vols, de cambriolages. Mais alors, extraordinaires. Hein. Enfin, oui, extraordinaires. Hein. Alors, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et là, ça sera... véritablement, eh bien, quelque chose de crucial. En ce jour-là, il nous est dit que les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ouais. Il faut s'attendre quand même à un grand remue-ménage. Au jour de Noé, il y a eu un grand remue-ménage, hein, parce que ça venait d'en bas. Ce sont les eaux qui ont monté, enfin ça venait d'en haut quand même, mais les eaux montaient. Et là, ça va venir, finalement, il nous est parlé d'un grand fracas, les éléments autour de nous. Alors, est-ce que l'on peut imaginer ce que ça peut être? Moi, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais est-ce qu'il y aura une conflagration avec une autre planète? Ou je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il que ça risque de faire une catastrophe majeure. Hein. Alors, ceux qui ne croient pas disent, mais vous savez, il y a 350 millions d'années, la Terre a été percutée par ceci et cela. C'est pourquoi les dinosaures ne sont plus là. Et, alors, on nous explique ça, moi, je veux bien croire. Hein. De toute façon, bon, c'est pas dans le propos. Mais toujours est-il que aujourd'hui, dès qu'il y a un petit volcan qui commence à souffler, il n'y a plus d'avion dans le ciel. Hein. Et puis, bien d'autres choses. Ça, ce sont des petites choses en miniature. Imaginez-vous ce que ça va être, parce que moi je crois et je tiens ferme que la parole de Dieu nous dit la vérité. Et Jésus nous le répète et nous le dit de lui-même dans l'Évangile. Il dit ceci, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Moi je crois que Jésus revient et il revient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. Alors nous sommes prêts, nous sommes de ceux, des hommes et des femmes, qui attendons, nous attendons comme l'homme qui attend. Alors, que Dieu nous bénisse et qu'il nous réconforte, et nous regardons dans la bonne direction. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il y a une belle espérance, Seigneur, dans le christianisme, dans l'Évangile. C'est que celui qui, en effet, nous a mis sur la terre, celui qui nous a, en effet, donné par l'expiation, Seigneur, de la croix, le pardon de nos péchés, celui qui était enseveli, qui est ressuscité, celui qui est monté au ciel, eh bien c'est ce même Sauveur qui revient bientôt. Ta parole nous le dit, à maintes et maintes reprises, c'est une véritable doctrine évangélique, biblique que tu reviens bientôt. Alors c'est vrai que nous sommes environnés dans un monde de moqueurs, de gens qui ne veulent pas croire, de gens qui apportent toutes sortes d'arguments contraires. Mais Seigneur, à qui nous devons faire foi, eh bien c'est à ta parole. Celui qui nous a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, puisque tu es la vérité, eh bien nous voulons te donner, avant toute autre chose, eh bien là, en effet, la priorité de croire à tes paroles, parce que, Seigneur, tu ne manqueras pas, Seigneur, de les accomplir, et nous te remercions. Bénis-nous, visite-nous, et donne-nous d'avoir nos reins sains et nos lampes allumées. Et cette lampe, nous l'avons allumée cet après-midi, à travers ta parole, qui nous dit encore une fois de plus, eh bien, je reviens bientôt. » Merci Seigneur, merci notre Dieu. Amen, amen.